Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mommy Rock. Mommy Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de deux petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Rock Your Business, j'ai le plaisir d'avoir au micro Jenny Chamas, Master Coach de vie certifiée en leadership. Elle accompagne depuis 3 ans les femmes managers, dirigeantes et entrepreneurs désireuses d'affirmer leur posture de leader. Vous la connaissez certainement via le fameux podcast Femmes Ambitieuses où elle nous prodigue de superbes conseils pour apprendre à concilier sereinement vie pro et vie perso, le tout sans renoncer à ses ambitions. Qui mieux que Jenny pour nous délivrer des conseils et astuces pour rester motivés en cette période incertaine et surtout pour nous aider à apaiser notre mental et mieux gérer nos émotions. À l'heure où je vous parle, on est tous en attente de la déclaration du président Macron de ce soir. Je sais que pour certaines, la période est plus que difficile. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à traverser au mieux cette période. Bon courage à toutes et très bonne écoute. Bonjour Jenny.
Bonjour Mariama.
Écoute Jenny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait 2 ans que j'ai découvert ton podcast, donc qui s'appelle aujourd'hui Femme Ambitieuse, donc anciennement Coach Happy. Tu es coach depuis 3 ans, donc coach certifié en leadership pour les femmes managers, dirigeantes et entrepreneurs. Ouais. Tu es auteur du livre Ambitieuse et épanouie et tu es aussi maman de 2 enfants.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi et ton activité?
Alors, je suis depuis quelques mois d'ailleurs master coach. Mmh. Ça veut dire que je peux aussi former des coachs. Et mon métier, ma passion, ma zone de génie, c'est vraiment d'accompagner des femmes leaders. Par leader, j'entends toutes les personnes qui ont envie de porter des idées, des projets et qui sont leaders en entreprise ou leaders de leur propre entreprise. J'accompagne ces femmes à s'épanouir dans leurs fonctions, à développer et assumer pleinement leur leadership et aussi à trouver leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Parce que exactement parce que ce sont des femmes les leaders d'aujourd'hui qui ont des vies très remplies et c'est vrai que travailler beaucoup souvent ça se fait au sacrifice de sa vie personnelle et l'idée c'est de remettre un peu d'ordre là-dedans pour essayer de gagner en efficacité, de travailler peut-être un petit peu moins et d'avoir un peu d'espace mental aussi pour mental et physique pour sa vie privée.
D'accord. Et tu accompagnes principalement, du coup, je pense que c'est assez bien réparti entre des femmes entrepreneurs, dirigeantes, managers, c'est quoi?
Ouais, alors je dirais que à 50% ce sont des entrepreneurs, à 50% ce sont des managers ou dirigeantes en entreprise.
D'accord. Et c'est des accompagnements sur combien de temps?
6 mois.
Ouais. D'accord. 6 mois, tu les accompagnes et ensuite, du coup, est-ce que tu arrives à avoir un feedback de ce coaching?
Ouais.
Comment elles le vivent?
En fait, je les accompagne vraiment très proche pendant 6 mois parce que il y a à la fois de la formation, donc je leur enseigne beaucoup d'outils qui vont leur être utiles dans cette quête d'équilibre et de leadership. Et aussi, je les coach beaucoup. Donc, ce qui est génial, c'est que sur 6 mois, tu vois vraiment les personnes évoluer, parce que au début c'est vraiment la découverte des outils et puis de remettre en question des croyances établies, puis au fur et à mesure c'est vraiment l'objectif, c'est d'avancer d'un point A à un point B puisqu'elles définissent elles-mêmes leurs objectifs. Et donc du coup c'est génial de voir quand elles partagent qu'elles ont atteint leur objectif, tu vois. Je terminais un groupe le mois dernier,
c'est une certaine satisfaction.
Complètement. Je terminais un groupe le mois dernier et y a toujours un appel de partage à la fin. Et là, mes clientes qui me disaient, moi j'ai doublé mon chiffre d'affaires, moi j'ai commencé à écrire parce que c'est ma passion. Et en fait, tu vois, c'est assez magique de voir ce qu'elles sont capables de faire grâce à la découverte de certains outils qui, de mon point de vue, devraient être enseignés à l'école.
Ah bah carrément.
Et grâce à la puissance aussi du coaching, hein, parce que dans le coaching, quand je les coach, on interroge toutes les croyances limitantes, et aussi à la force du groupe, parce que mon accompagnement se fait précisément en groupe. Et donc, ça veut dire que ces leaders, elles sont au sein d'une communauté, d'un réseau, et toutes ces femmes, elles ont cette ambition commune d'aller vers leur objectif. Et en fait, ça crée un truc génial, quoi. Énormément de force,
une belle synergie,
de soutien. Ouais.
C'est super. Et qu'est-ce que tu faisais avant de devenir coach?
Alors moi, j'étais moi-même manager en entreprise. En fait, j'ai bossé pendant 10 ans dans le secteur de la mode. Et le dernier poste que j'ai occupé, mais j'ai passé pas mal de temps en fait dans l'entreprise H&M, et le dernier poste que j'ai occupé chez eux, c'était je dirigeais en fait le merchandising, donc c'était à la fois les achats et les ventes pour la Corée du Sud. J'étais expatriée.
D'accord.
Et donc je pilotais un chiffre d'affaires, j'avais une équipe qui s'occupait de différentes catégories de produits et j'étais au CODIR. Et c'est une expérience que j'ai adorée et qui en même temps a été extrêmement challenging, parce que moi j'avais un bébé en bas âge. Pendant ce poste-là, j'ai aussi été enceinte et j'ai eu un deuxième enfant. Donc tu vois, ça faisait beaucoup, j'ai cumulé beaucoup. Et donc finalement, tous les challenges auxquels font face mes clientes, pour la plupart, je les ai moi-même vécues en fait. Et
c'est tiré de ta propre expérience.
Ouais,
du coup.
Et c'est ça qui m'a motivée à devenir coach d'ailleurs.
Petite question, bon, là on est en période de confinement qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous partager quelques clés pour rester motivé malgré cette période?
Ouais. Alors, je pense que la première chose qu'on peut faire, et que moi je m'attache à faire, c'est de me rappeler tous les jours ce pourquoi j'ai de la chance. Ce pourquoi j'ai de la gratitude.
D'accord.
Parce que même quand, entre guillemets, ça va mal, c'est-à-dire même quand on a des contraintes, des choses qui ne vont pas, il y a toujours un espace où il y a des trucs qui vont. Donc, c'est se rappeler pourquoi je suis chanceuse, je sais pas moi, d'avoir un endroit où je vis, par exemple. Tu vois, je me rappelle que
On prend pour acquis, mais...
Non, mais exactement, on prend toutes ces choses pour acquis, mais en fait, non, elles sont pas du tout acquises. Je suis reconnaissante d'avoir mes enfants en bonne santé, reconnaissante que mon mari soit là et travaille dans la même maison. Et en fait, essayer de lister. Et cette liste-là, ça peut être des choses toutes bêtes. Par exemple, un truc qui est vraiment fondamental, c'est que je suis reconnaissante d'avoir Internet qui marche chez moi avec un ordinateur qui fonctionne pour qu'on puisse faire cet enregistrement de podcast. Tu vois ? Et en fait... Quand tu fais cet exercice au quotidien, c'est que la première chose que tu fais quand tu te réveilles, ton cerveau, il va aller immédiatement vers tout ce qui ne va pas. D'accord? On est normalement constitué.
C'est un réflexe.
On est normalement constitué quand ça se passe comme ça. D'accord? C'est normal. Ouais. Faut pas s'inquiéter. Simplement, du coup, il faut le ramener et lui poser cette question-là. Mais en fait, qu'est-ce qui va bien? Pourquoi je suis contente? Pourquoi je suis reconnaissante? Et en fait, la liste peut être infinie parce que souvent, il y a plein de petites choses. Je suis contente que ce midi, j'ai mangé des pâtes à la bolognaise, cuisiné maison, tu vois.
Les plaisirs simples.
Exactement.
C'est ça. C'est super. Ça a l'air simple à faire sur le papier, mais c'est vrai que ça nous passe au-dessus de la tête, quoi, ces choses-là.
En fait, et alors techniquement, vraiment, 5 minutes, on peut se mettre un petit chrono sur le portable. 5 minutes, ouais. Un papier, un crayon, et on fait une liste en mode bullet point de tous les trucs qui nous donnent du baume au cœur. Et en fait, assez rapidement, ce que ça produit techniquement, c'est que, tu vois, moi, quand je le fais, hein, concrètement, je me mets à sourire. Je me mets à me dire, ah, mais ouais, c'est génial, ça se réchauffe un peu à l'intérieur, tu vois. Ça a vraiment un impact.
Bah, l'effet instantané.
Ouais, ça a vraiment un impact.
Super. Bon, bah, je sais ce que je vais faire ce soir, pour le coup. Mais j'en avais avant un petit journal de gratitude, mais le plus dur, c'est vraiment la régularité. Ouais. C'est de réussir à le faire vraiment tous les jours. Je pense que tu commences au début, bon, faut y aller pas à pas, hein. C'est des habitudes à prendre. Bah, tu le dis toi-même dans ton podcast, hein. Le cerveau met 21 jours avant d'acquérir une
habitude.
Habitude. Donc, voilà, faut tenir le cap et essayer de faire ça régulièrement. Comment on peut gagner en clarté et décider fermement de ses priorités sur cette fin d'année? Parce que je pense que, étant dans une période un peu trouble, on peut être un peu indécis sur certaines choses à délaisser, que ce soit pour notre activité ou pour notre vie personnelle. Comment est-ce qu'on peut justement gérer ça au mieux? Se dire, ok, bon bah là, on est au mois de novembre, qu'est-ce que je peux faire sur cette fin d'année pour, malgré la situation, que ça se passe au mieux, et comment mieux préparer l'année prochaine?
Alors, je dirais que pour choisir et décider, finalement, c'est un peu, je pense qu'il faut poser les choses de façon assez simple. C'est-à-dire que quand on voit on pourrait avoir plein de priorités en même temps, mais qu'on se rend bien compte que, en fait, on pourra pas tout faire et qu'il va falloir choisir entre tout ça, c'est de se poser la question pour soi-même, qu'est-ce qui est le plus important? Et peut-être de mettre des degrés d'importance à chaque chose. Et tout le monde pourra avoir des opinions différentes sur ce qui est le plus important. Et je pense que ça compte de se dire, en fait, c'est pas ce que pensent les autres qui est important, c'est vraiment ce que moi, j'envisage comme plus important. En cette fin d'année, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que ça va être, je sais pas moi, de faire un site internet, de lancer un nouveau programme, ou alors, en fait, ça va pas être mon entreprise qui compte le plus pour cette fin d'année, ça va être de prendre soin de ma famille, de gérer l'école pour les enfants, pour comme des cas comme le tien, quand la crèche est fermée ou que l'école est fermée.
Exactement.
Comment on gère et donc de poser ça sur papier, de décider. Et d'accepter que c'est OK de repousser certaines choses à plus tard. Que le monde ne va pas s'effondrer. Et que, en fait, tout ça, on le fait pour soi et pas à son détriment. Parfois, on veut tout faire, tellement faire qu'on s'épuise. Et on se fait le plus beau des cadeaux quand on contraint le nombre de choses qu'on fait. Et qu'on se dit, en fait, non, je vais pas faire plus. Tant pis, il y a des trucs que je ferai pas et c'est OK. Mais du coup, on peut savourer aussi les moments où on se repose et on se dit, en fait, je peux me reposer parce que j'ai dit non à tel truc.
Et comment faire ça sans culpabilité? Je pense que ça, c'est le plus dur, ça.
Ouais.
Clairement, moi, si je prends mon exemple, par exemple, là, comme tu le dis, j'ai mon petit qui est à la maison.
Ouais.
Donc, du coup, c'est difficile à gérer. Et j'ai du mal à me dire, OK, je délaisse ça. Dans ce cas, si je décide de travailler, je travaille à 100%, mais du coup, en ce moment, je peux pas m'en occuper. Bon, là, il fait la sieste, heureusement. Mais voilà, les moments où il est là, je peux pas m'en occuper. Et quand je m'occupe de lui, je suis en train de me dire, oh là là, j'ai 1 milliard de choses à faire. Comment je vais faire pour gérer ça au mieux, quoi? Donc, comment tu fais ça sans être coupable, sans te sentir coupable, pardon?
En fait, je pense que la question de la culpabilité, si je te disais non mais je me sens pas du tout coupable, je te dirais non mais en fait je te mentirais. Le fait est que il faut aussi être consciente que choisir, surtout quand on a l'habitude d'essayer de tout faire, choisir c'est inconfortable. On renonce, mais on renonce dans l'inconfort, d'accord?
C'est pas genre,
je vais me tourner les pouces, ça va être génial, les doigts de pied en éventail sur mon lit, pas du tout. En fait, ce qui se passe clairement, c'est que c'est qu'on se dit, oh là là, j'ai fait ce choix, c'est bien, Jenny, t'as fait ce choix. Mais en même temps, ma main démange d'aller allumer l'ordinateur. Donc, cet inconfort, il est là. Et en fait, cet inconfort, il ne peut devenir confortable que si on s'habitue à cette acceptation. Donc, pour revenir à la culpabilité, qui est en fait ce que j'appelle de l'inconfort, Je pense qu'il faut aussi savoir se demander, est-ce que c'est une culpabilité qui est utile, c'est-à-dire qui va te faire avancer et changer tes décisions, ou est-ce que c'est une culpabilité qui est stérile, qui est juste en fait la voix du tyran dans ta tête et qui te dit « Ah, mais c'est pas bien, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. »
Le petit
mais
diable.
Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, t'avais déjà décidé que tu le ferais pas. Donc, la plupart du temps, ce que je constate, c'est que la culpabilité qu'on a quand on fait des choix, c'est une culpabilité stérile. Et donc, quand on a une culpabilité stérile, c'est de se rappeler que cette petite voix dans la tête, c'est juste la voix exactement du petit diablotin, mais qu'on n'est pas obligé de l'écouter. Que le petit ange peut aussi faire surface et dire « Oui, je sais, petit diablotin, tu es là, mais c'est mon choix et je vais tenir bon, même si c'est inconfortable. » Et plus ouais. on s'habitue à cette conversation intérieure et qu'on en perçoit aussi les bénéfices, parce que quand on fait des choix, je veux dire, à moyen terme, il y a déjà des bénéfices de se sentir un peu plus relax, un peu plus reposé. Quand tu vas associer les bénéfices à ces prises de décision, ça va être plus facile la prochaine fois de faire des choix.
Ouais.
Mais au début, c'est inconfortable.
Ouais, c'est sûr, ça demande de l'entraînement pour le coup. Des montagnes russes que l'on connaît en tant que femme entrepreneur. Comment est-ce que tu as des clés à nous partager pour les gérer au mieux, ces fameuses montagnes russes émotionnelles ?
Oui, alors clairement, surtout dans une période dans laquelle on est encore plus montagne russe pour les entrepreneurs, sachant qu'on est confiné, sachant que le business, en fonction de ce qu'on fait, roule pas pour tout le monde, c'est difficile. Et donc ça génère beaucoup d'émotions et en soi le fait de faire des montagnes russes, je dirais le fait d'être dans le positif, puis dans le négatif, puis dans le confort, puis dans l'inconfort, c'est naturel. Quelque part, qu'on entreprenne dans un moment où on est en crise ou à un moment où tout va bien, quoi qu'il arrive, ce sera toujours un 50-50 pour un 50-50. 50% d'émotions positives et 50% d'émotions négatives, parce que c'est l'expérience humaine qui veut ça. Donc, pour pouvoir accueillir ça, et pas que ce soit des montagnes russes, justement, parce que les montagnes russes, on imagine que ça monte très, 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 très haut, que ça descend très, 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 très bas. Souvent, quand c'est le cas, c'est parce que on est en tension, c'est parce que on n'accueille pas nos émotions. Or, quand on ressent des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, on peut tout à fait faire l'exercice de les accueillir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter que là, tout de suite, je me sens pas bien, je me sens stressée, c'est difficile, ça me tord les boyaux, ou alors je respire de façon saccadée parce que je suis stressée. Accueillir ça, reconnaître l'émotion, tu vois, la nommer, donc c'est du stress, la décrire dans son corps et se dire, bon, ok, c'est une émotion. En fait, une émotion, c'est quoi ? C'est une sensation dans mon corps et cette sensation, elle vient et puis elle part. Elle n'est pas là pour rester, elle ne va pas durer toute la vie et je suis totalement capable de survivre à cette émotion de stress, tu vois. Et je pense que quand on se dit, en fait, de l'inconfort émotionnel, c'est juste de l'inconfort physique, mais ça ne tue pas, ça ne rend pas malade, tu vois. Déjà, c'est plus facile à accepter. En fait, le pire qui puisse se produire dans cette situation, c'est que la montagne russe fasse un très gros bas et que je me sente pas hyper bien. En fait, quand je me sens pas hyper bien, ça se passe au niveau de mon ventre ou de mes bras et ça fait des picotements. Et décrire ça et lui donner une existence réelle dans son corps, en fait, ça dédramatise énormément. Parce que quand on y pense, ressentir une émotion, c'est juste qu'il se passe un truc dans notre corps. C'est pas non plus la fin du monde.
Est-ce que tu as des outils pour nous aider à apaiser justement notre cerveau, notre mental, surtout en cette situation ?
Tu veux dire arrêter de penser, c'est ça ?
C'est ça. Est-ce qu'on peut l'éteindre un moment ?
Alors, désolée, je n'ai pas encore trouvé l'outil.
Zut.
On aimerait bien qu'il y ait un petit bouton sur le cerveau, tu sais.
Off. Et hop, switch. Switch off, et puis voilà. Non, c'est pas aussi simple, mais au moins pour tempérer
un petit peu. Non, mais je crois que déjà, quand on pratique l'accueil des émotions, donc que je vais résumer en quatre étapes, parce que comme ça, vous pourrez le garder en tête. Donc, nommer l'émotion, la décrire dans son corps, prendre trois profondes inspirations, et ensuite continuer sa journée avec. Voilà.
Ouais.
Donc ça déjà, quand on est capable de faire ça, c'est-à-dire que au lieu de rester dans le mental, c'est souvent ce qu'on fait, c'est on reste dans notre tête.
Ouais.
C'est mental, on rumine, on rumine. On se connecte pas du tout à ce qui se passe dans notre corps. Du coup, on n'arrive pas à évacuer cette tension, puisqu'on s'est pas connecté à la tension corporelle. Donc on rumine encore plus. Le fait d'accueillir ses émotions, déjà, ça casse ce rythme. Parce qu'en fait, on rumine, on sent qu'on n'est pas bien, et là, on fait un petit check corporel. Ok, voilà ce qui se passe. Ça permet de prendre du recul. Et quand on prend du recul et qu'on est en train d'analyser ce qui se passe physiquement, on n'est plus dans le mental. On n'est plus dans toutes nos histoires, nos drames, et comment je vais faire, et je ne sais pas comment faire. Et ça, c'est un drame, et voilà. Et du coup... ça permet de faire une pause, un espace de respiration où on va prendre du recul. Donc entre cet outil et l'outil de la gratitude dont je te parlais au départ, les deux cumulés ensemble, quelque part, ça permet aussi de cesser un peu les ruminations, de toujours voir le négatif.
Tu vides un peu ton cerveau, quoi. Et la méditation dans tout ça, tu médites un petit peu?
Alors, la méditation, c'est un excellent outil. Quelque part, le fait d'accueillir ses émotions, c'est un peu... Enfin, il y a un lien avec la méditation, parce qu'on est vraiment dans le corps et les ressentis. La méditation est un excellent outil pour apaiser son mental. Je dirais, en tout cas, dans un premier temps, ça apaise pas nécessairement le mental, mais ça permet de gagner en conscience sur ce qui se passe dans notre esprit. Je recommande à mes clientes de méditer minimum 10 minutes par jour. Et à l'aide d'applications, il y a plein d'applications de méditation qui sont top.
Oui, j'utilise Petit Bambou qui est pas mal.
Petit Bambou, moi j'utilise Headspace ou Insight Timer. Les deux sont très bien. Donc là, vous avez accès à des méditations de 10 minutes qui sont guidés. Et donc, c'est juste s'asseoir 10 minutes et écouter ce que la voix nous dit.
Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc, et suivre ce qu'on nous dit.
C'est assez...
C'est pas aussi facile. Hein. Moi, je... T'as ton cerveau qui part dans tous les sens, les pensées qui fusent et revenir se recentrer, c'est un sacré exercice.
Ouais,
quand même.
Et quelque part, la méditation ne dit pas « je dois vider mon cerveau ». C'est exactement l'exercice d'être capable de remarquer « ah tiens, mon cerveau part » et « ah, je le ramène », qui est précisément l'outil de méditation. Parce que on a 65 000 pensées par jour, et elles vont pas s'en aller. Je veux dire, notre cerveau, il continue de fonctionner. Donc,
c'est clair.
Simplement, la méditation permet de gagner en conscience sur ce qui se passe et permet aussi de ralentir le rythme. Et donc, quand on se sent, surtout dans une période de crise comme ça, souvent, on se sent dans l'urgence. L'urgence de faire quelque chose, l'urgence de régler un problème, l'urgence. Quand on ressent de l'urgence, c'est un moment parfait pour faire de la méditation. Ça va être très difficile, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un indicateur. Oui, il faut pas agir. Quand on ressent l'urgence, en général, c'est pas le bon indicateur pour agir. Sauf évidemment si vous êtes en danger de mort ou voilà. Mais là, je parle business, décision business. Vaut mieux pas prendre de décision dans l'urgence. 10 minutes de méditation et après, on prend sa décision, quoi.
Bon, en parlant de business, comment on peut... Alors, j'avais écouté un de tes podcasts il y a un moment déjà sur la définition des objectifs, de ces objectifs. Là, on termine l'année, on va commencer une nouvelle.
Ouais.
Comment on peut planifier au mieux nos objectifs pour l'année prochaine, en prenant en compte la situation actuelle, pour le coup?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que l'exercice reste le même qu'avec ou sans crise, dans le sens où il est toujours bon de se fixer des objectifs parce que ça permet d'avoir une vision plus long terme et donc de vraiment se voir avancer. c'est-à-dire pas après pas vers l'objectif. Donc je conseille vraiment de fixer un objectif. Et après, comment on fait pour intégrer le facteur crise ? Alors, je dirais, là, ça fait quand même... Enfin, on y est depuis mars, hein, donc ça fait un moment. Donc, pour tous les entrepreneurs qui avaient déjà une boîte à cette époque-là, quelque part, ce qui s'est passé entre mars et aujourd'hui donne un indicateur des conditions à prendre en compte. Donc, je pense que c'est bien d'être quelque part assez réaliste sur les possibilités. Qu'est-ce que j'ai été capable de faire dans ces mois-là ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a pas marché ? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour que ça marche mieux ? Et en fonction de tout ça, fixer un objectif. C'est-à-dire ne pas décorréler l'objectif d'une certaine réalité. Parce que le risque, sinon, c'est de se démotiver. Parce que si on se fixe à un objectif qui est complètement... pas du tout en relation avec la réalité qu'on a vécue cette année, bah, c'est presque démotivant parce qu'on se dit « je vais jamais l'atteindre ». Alors que si on se fixe quelque chose d'ambitieux, c'est-à-dire de mieux que cette année, mais quand même qui a une base de réalité, parce qu'on a des chiffres, on a été capable de voir ce qui se fait, etc., ça permet à la fois de se challenger et en même temps quand même de tenir compte d'une certaine situation. Avec aussi je pense que ce qui va être important et ce qui est important pour tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est de se poser les bonnes questions et de savoir se challenger. Parce que on prononce le mot de crise et immédiatement, quelqu'un qui a un business et surtout qui est impacté par la crise se dit c'est bon, c'est la fin. Ça va pas marcher, c'est fini, c'est foutu. Sauf que malheureusement, dans cet état d'esprit-là, c'est hyper difficile d'avoir de nouvelles idées. Évidemment, je ne peux que comprendre ces pensées qui viennent immédiatement. C'est normal, on est face à une situation qui est tellement dure à gérer. Spontanément, notre cerveau, ce qu'il nous propose, c'est danger, se sauver en courant, c'est fini, on arrête tout, on plie bagages. Et en même temps, les entrepreneurs qui vont se sortir de cette crise, il y en a qui sont chanceux parce qu'ils ont un business qui tourne pendant la crise, voilà. Il y en a qui sont un peu moins chanceux parce que leur business est hyper impacté. Et pour cela, ce qui va vraiment les aider, c'est de se questionner. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour servir mes clients ? Ou alors, est-ce que mes clients, ils ont besoin d'autre chose que moi, je pourrais leur offrir ? Ou ce que j'ai toujours offert, est-ce que ça peut s'offrir d'une façon différente, adaptée à la situation ? Et en fait, toutes ces questions-là, pour pouvoir se les poser, il faut déjà évacuer toutes les pensées du genre « je vais pas y arriver, je suis trop nul, de toute façon, ça marchera jamais ».
Rester optimiste quand même, voilà. Quelque part.
Et se poser les questions et essayer d'envisager ce que peut-être votre cerveau n'a jamais envisagé auparavant et accepter que le chemin vers votre objectif, parce qu'en général, quand on monte une boîte, c'est qu'on a un objectif, on a une envie particulière, que ce chemin-là sera peut-être pas exactement celui que vous aviez imaginé, mais que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver au point que vous vouliez rejoindre. Ça veut juste dire que le chemin sera différent, ça va peut-être prendre plus de temps, il y aura peut-être des étapes différentes, et peut-être que c'est OK.
Super. Bah, on n'aurait pas pu dire mieux. Du coup, toi, au niveau du confinement, comment ça s'est passé concernant ton activité ? Est-ce que tu as dû te réadapter ? Est-ce que tu as dû faire des choses que tu ne faisais pas avant ? Comment ça s'est passé, confinement 1 et confinement 2, d'ailleurs ?
Donc, confinement 1, parce que je pense que c'est vraiment celui-là qui a le plus impacté, parce que bah, les enfants étaient à la maison. Moi, j'ai la chance d'avoir un business qui est 100% digital. Et ça, c'était le cas depuis bien avant le confinement. Donc, pour tout ce qui est travailler avec mes clientes, ça simplifiait les choses. Donc ça, c'était la première chose. Donc ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. La deuxième chance que j'ai, c'est que en temps de crise, quelque part, les gens ont de plus en plus besoin de coaching parce que on a besoin d'avoir des ressources mentales, émotionnelles pour affronter ça. Donc cela étant dit, évidemment, comme tout le monde, j'ai dû faire face à certaines situations. La première étant d'avoir 50% du temps, j'estime à 65% de temps de travail. C'est-à-dire qu'il y avait mes enfants à la maison, mon mari, donc on se faisait moite-moite et on bossait tard le soir ou très tôt le matin.
Bah oui, pour rattraper, ouais.
Exactement. C'est ça. Donc en gros, mon objectif, c'était de produire autant de valeur mais en 65% de temps, donc 35% de temps en moins. Je suis sortie du premier confinement très fatiguée. Je paye encore les pots cassés, hein. Mais ouais, en revanche, j'ai découvert des trucs assez intéressants sur l'efficacité, la productivité et sur mes capacités. Donc tu vois tout ce que avant il y avait plein de tâches que je faisais et j'estimais que c'était ça devait durer une heure ou 45 minutes. Et quand j'ai été face à ce manque de temps, bah j'ai coupé. Donc je coupais tout en deux.
T'es obligé de réduire, ouais,
c'est moitié moins de temps. Bon bah là en fait, j'ai pas le choix, c'est moitié moins de temps. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que j'avais réussi à faire vraiment bien en moitié moins de temps parce que j'avais juste pas le choix. Je m'étais pas donné le choix, je m'étais dit en fait, t'as pas le choix, tu le fais. Donc perfectionnisme à la trappe. Alors ok, il y avait des coquilles, hein. Évidemment, ouais, j'ai fait des bourdes.
Bah oui, ça arrive à tout le monde, surtout. Mais en fait, pas tant vouloir.
Ouais, mais en fait, ça marche. Et en fait, donc la première réalisation, c'est que je pense que globalement, on s'accorde trop de temps pour faire les choses. Mmh. On peut être plus efficace.
Plus qu'il n'en faut. Ouais.
Ça, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième truc qui est lié à ce que je t'ai dit avant, c'est que moi, j'accompagne des femmes qui sont des leaders et donc qui, elles, ont aussi pris la crise de plein fouet. C'est-à-dire que dans la salle, il y avait des entrepreneurs qui étaient directement impactés, qui ont dû fermer des établissements, fermer des magasins. Enfin, je veux dire, on parle de trucs, de trucs sévères. Et moi, mon questionnement, il était, j'ai mes clientes là, il faut que je les aide. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Et du coup, le premier confinement a donné lieu à la création de tout un module qui n'était pas prévu dans mon programme initial, mais du coup qui s'est ajouté. Donc maintenant, mes clientes en bénéficient. Un module spécifique sur la gestion de crise. Donc, comment décider en temps de crise, comment gérer les finances en temps de crise, comment penser la crise différemment, comment créer de la valeur. Donc voilà, tout. En fait, vraiment, donc quelque part, ça m'a aidée à être créative. Ça m'a poussée dans mes retranchements de créativité. Donc voilà. Et puis alors, le deuxième confinement, écoute, je l'aborde quand même plus sereinement parce que déjà, c'est plus la première fois.
Il y a les enfants. Voilà, c'est ça. Et déjà,
c'est plus la première fois. Et oui, tu as raison. Les enfants sont à l'école pour l'instant.
Ils sont pas là. Oui.
Donc on croise les doigts.
C'est ça.
Donc j'ai du temps.
Ça sauve.
J'ai du temps pour travailler, quoi.
Bah super. Tu vas au bureau ou tu restes quand même
non,
tu bosses principalement de chez toi?
J'ai déménagé le bureau à la maison et j'ai mis mon équipe aussi en télétravail pour respecter les règles, quoi.
Les contraintes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est super. Mais écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous écoutent?
Oui, avec plaisir. Je pense que le mot de la fin pour moi, ce sera vraiment de garder en tête que tout est possible. Que même ce qui semble impossible, improbable, à partir du moment où on pense, où il y a une toute petite fenêtre qui s'ouvre dans notre cerveau pour nous dire « en fait, c'est peut-être possible », eh bien là, on commence à entrevoir des opportunités. Donc vraiment, s'il n'y a qu'une chose à écrire partout, à lire, etc., c'est « tout est possible ». Parce que je pense que c'est vraiment un mantra qui permet de soulever des montagnes.
Super, merci beaucoup Jenny, merci
avec
pour ton
plaisir.
Temps.
Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est aller écouter mon podcast Femme Ambitieuse.
Oui, de toute façon je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, le lien vers ton livre et du coup sur ton site internet pour celles qui veulent pousser un petit peu plus loin et se faire accompagner.
Super.
Pas de soucis.
merci infiniment Mariama.
Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, MomYouRockFR. À bientôt !